Dans un peu moins de 2 mois, nous allons observer la commémoration annuelle de la Pâque. La première Pâque fut la nuit où les premières nées d'Israël furent sauvées lorsqu'ils tuèrent un agneau et ont mis son sang sur le linteau de la porte de leur maison. Un agneau devait mourir pour qu'il puisse être sauvé. Des centaines d'années plus tard, Jésus s'est servi de cet événement historique pour nous montrer qu'il était l'agneau figuratif qui devait être tué et par le sang duquel non seulement Israël sera sauvé, mais aussi tous les peuples, des gens de tous les coins du monde. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, pour commencer, à 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. C'est juste un petit passage, mais c'est important parce que ça, c'est un sermon pour démarrer, j'espère, notre préparation pour la Pâque, pour les jours saints de printemps. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, Paul est très clair. Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes levain, vous êtes, pardon, sans levain, car, et ça c'est le point important, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Et donc, la chose, on peut dire que c'est Christ a été sacrifié pour nous. Il est le sacrifice, il est le vrai Pâque pour toutes les personnes. Je trouve intéressant que ce que je viens de partager, aucun chrétien ne le conteste parce que voilà, il dit dans la Bible, et pourtant très peu célèbrent la Pâque. Au lieu de cela, ils célèbrent tout ce qui l'entoure. Ils célèbrent le Vendredi Saint qui évoque sa mort et sa crucifixion, ou bien sûr le dimanche de Pâques qui évoque sa résurrection, ou encore ils célèbrent, je crois que c'est le carême qui a pour but de préparer le dimanche de Pâques, c'est 40 jours. Pourtant, la soirée de la Pâque elle-même est rejetée par le christianisme en général comme étant une tradition juive. Ainsi, dans l'Église de Dieu, nous allons participer à une soirée spéciale, la Pâque, dans un peu moins de 2 mois. Alors que nous commençons à réfléchir à cet événement à venir, je me pose la question suivante. Que signifie pour moi la mort de Jésus-Christ? Je me pose cette question et je pense que chacun d'entre nous devrait se la poser. Nous pouvons lire les événements qui ont conduit à la Pâque. Dans les récits évangéliques, nous pouvons lire ce que l'apôtre Paul a enseigné à ce sujet, voilà ici. Et nous pouvons écouter des sermons comme celui-ci. Et je recommande toutes ces choses, elles sont bonnes. Cependant, je pense que c'est dans le calme de notre chambre, dans la prière et la méditation, dans le journal de nos pensées, dans la réflexion tranquille. C'est dans ces moments-là que l'Esprit de Dieu nous amène à comprendre personnellement ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons nous poser la question, que signifie pour moi la mort du Fils de Dieu? Ou peut-être pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Je vais partager quelques réflexions sur ce que cela signifie pour moi personnellement et au fur et à mesure, j'espère que vous pourrez écrire vos propres points. J'espère que ce sera le point de départ d'une série d'études bibliques qui vous prépareront pour cette soirée. Nous abordons trois points. Moi, j'ai choisi trois choses pour ce sermon. Il est mort, Jésus-Christ, il est mort pour que je vive. Il est mort pour que je sois réconcilié avec Dieu le Père. Et troisièmement, il est mort pour que je puisse comprendre son amour inconditionnel. Le titre, si vous voulez, du sermon aujourd'hui est « Que signifie pour moi la mort de Jésus-Christ ?» Que signifie pour moi la mort de Jésus-Christ ? La première chose que je dirais est qu'il est mort pour que je vive. Je peux dire, honnêtement, j'ai 56 ans. OK, voilà, ça c'est mon âge. Je ne me sens pas très différent de ce que je ressentis il y a 30 ans, quand j'avais 26 ans. J'ai eu la chance d'être en bonne santé. Je peux dire que je ne suis pas aussi rapide. je ne suis pas si rapide que je ne récupère pas aussi vite qu'avant. Mais dans l'ensemble, je peux regarder en 1993, en 2003, 2013, et mon cœur et mon esprit ne semblent pas avoir changé énormément. Mais lorsque je me projette dans l'avenir, mettons dans 30 ans, lorsque j'aurai 86 ans, je sais que les choses ne seront plus les mêmes. Non, tout d'abord, il se peut que je n'ai pas 30 ans de plus à vivre. Mes parents, mes grands-parents ne sont jamais arrivés à 86 ans. Beaucoup de choses pourraient se produire. Mais même si je vis 30 ans de plus, les cellules de mon cœur ne se régénéreront pas de la même manière qu'au cours des 30 dernières années. Mon cœur et mon esprit se dégraderont. Et ce qui était autrefois facile deviendra difficile. Tout comme mon bon chien, qui a 9 ans, et qui n'est peut-être plus que 5, 6 ans à vivre, je n'ai moi aussi qu'un temps limité. 70 ans, 80 ans, 90 ans, si tout va bien. Reportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Corinthiens 15. Nous sommes ici dans le chapitre 5, donc allez dans le chapitre 15, jusqu'à quelques pages plus tard. 1 Corinthiens 15 et verset 22. On peut lire pourquoi ça arrive. Parce qu'il y a raison pour ça. Il dit dans verset 22, chapitre 15, verset 22. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Vous savez, au commencement, Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin, et dans ce jardin se trouve l'arbre de vie. Lorsque nous envisions la vie du point de vue de Dieu, je pense qu'au temps qu'il me faudra pour me rendre à l'étoile le plus proche. Vous savez, si j'avais un vaisseau spatial capable de voyager à la vitesse à laquelle je peux conduire sur l'autoroute en France, disons 110 km par heure, imaginez que peut-être c'est la pluie, c'est pas 130 mais c'est 110, ok, 110 km par heure. Donc, pour aller dans l'étoile le plus proche, il me faudra plus que 40 millions d'années pour atteindre l'étoile le plus proche dans ma petite vaisseau spatial. Imaginez vivre 40 millions d'années. C'est très différent que de vivre 100 ans. Mais même après 35 999 900 ans. Je pense qu'en fin de compte, la vie se terminait quand même. Et que si vous voulez aller jusqu'à l'étoile le plus proche, vous ne pourrez toujours pas. Et ça, c'est jusqu'à une étoile. Il y a des milliards des étoiles dans l'univers. C'est vaste. L'arbre de vie était là pour nous donner une vie sans fin. Beaucoup plus que 40 millions d'années. Bien sûr, beaucoup plus que 70. Une vie de plus, remplie de paix et de bonne santé. Et plus qu'aussi de temps pour voyager dans tous les coins de l'univers sans jamais se fatiguer. Ça, c'est le plan pour l'humanité. Mais Adam a décidé de suivre un autre chemin. Il a choisi l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Et le chemin vers l'arbre de vie a été bloqué par un ange. Adam a rejeté Dieu et ses commandements. Depuis lors, les conséquences de nos actions ont entraîné notre mort. Au début, les humains vivaient près de 1000 ans. Mais au fil du temps, cette durée de vie a diminué pour atteindre celle que nous connaissons aujourd'hui. Peut-être qu'avec les percées scientifiques, certains espèrent que nous pourrions vivre 200 ans ou 300 ans, voire plus. Mais personne ne parle de vivre 40 millions d'années. Plus important encore, des milliards de personnes vivent aujourd'hui avec moins de 1 000 euros par an et sont bien plus préoccupés par le fait d'avoir juste assez à manger et de prendre soin de leur famille, sans parler de vivre pendant des centaines et des milliers d'années. La vie est trop courte et franchement souvent misérable. Et puis bien sûr, il y a de la guerre. Il y a la guerre, comme c'est le cas dans nombreux pays maintenant. En d'autres termes, la vie aujourd'hui peut être très difficile. Mais il existe une solution. Remarquez le verset 23 ici. Verset 23 à 26. Mais chacun à son rang, Christ comme prémisse, puis ce qui appartient à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu, le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. C'est la mort. Donc, Jésus va faire ça pour nous. Et il va donner une chance à tout le monde d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle, la vie sans fin, beaucoup plus que 40 millions d'années. Tous les gouvernements qui existent aujourd'hui et les dictateurs qui amassent des richesses pour eux-mêmes et oppriment leurs frères seront remplacés. L'injustice systématique de nos systèmes économiques et de l'ordre mondial sera renversée. Et à sa place, il y aura le royaume de Dieu. Et après cela, la dernière ennemie qui sera détruite est la mort. La mort. Comment cela est-il possible? Allons, s'il vous plaît, à Colossiens. À chapitre 2. Colossiens, chapitre 2 et verset 13. Colossiens, chapitre 2 et verset 13. Comment est-il possible que je peux vivre si longtemps, même éternellement, avec Jésus dans son royaume, grâce à sa mort? Colossiens, chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui substituait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. La vie nous est donnée parce que les choses que nous avons faites, ainsi que nos parents et grands-parents depuis Adam, ont été pardonnées. La liste des péchés a été clouée avec Jésus sur la croix. Le Louis II ici dit les ordonnances, ce qui pourrait impliquer un ensemble des règles. C'est là que certains affirment que la loi de Moïse a été clouée sur la croix. Mais les érudits reconnaissent que ce verset ne dit pas cela. La Bible de Semeur traduit le verset de cette façon et dit « Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établisse nos manquements à la garde des commandements. » Il sera préférable de traduire ce mot, ici « ordonnance », par une reconnaissance de dette. Une reconnaissance de dette. Le même mot est utilisé dans Philémon, verset 19, où Paul parle de remboursement de la dette d'un esclave fugitif. Le Christ a pris sur lui toutes les fautes que j'ai commises et il a payé cette dette pour moi. Il a pris sur lui-même mes fautes, ce que nous appelons souvent le péché, afin que je puisse avoir la vie et une vie plus abondante, comme l'écrit Jean dans Jean 10, verset 10. Donc, ça, c'est son sacrifice pour moi. Regardez sur, reportez-vous s'il vous plaît, à 1 Pierre 2, où l'apôtre Pierre a écrit ça. Il est très clair ici, la chose que Jésus-Christ a fait pour nous avec sa mort. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Il dit, « Lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point. » Ça, c'est verset 23. Pardon, je vais commencer verset 23. 1 Pierre 2, verset 23. Maltraité ne faisait point de ménance, mais se remettait à celui qui juge justement. Lui, verset 24, qui a porté lui-même nos péchés en son cœur sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice, lui pour le meurtrisseur duquel vous avez été guéri. Quand elle est mort, il a pris sur lui mes fautes, pour que j'aie une chance de vivre comme Dieu l'avait prévu, à la fois dans cette vie et grâce à la guérison qu'il m'apportera, et aussi dans la prochaine vie, pour toute l'éternité. J'ai parfois entendu des gens dire, « Mais je ne sais pas vraiment si je veux vivre pour l'éternité. » Et peut-être que nous avons pensé cela nous-mêmes. C'est tout à fait compréhensible car notre expérience de la vie présente peut diminuer notre désir d'une vie qui ne finit pas. Les souffrances intimes que nous avons peut-être subies, les tragédies de la guerre, des tortures, des enfants abusés, etc., etc., peuvent représenter pour certains leur seule expérience de la vie. Dieu nous parle de cela, pensez dans Ésaïe 1, verset 6, il dit « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon état, ce sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'étaient ni pensées ni bandées. Donc il y a, ça c'est notre expérience avec la vie. Ainsi, la vie telle que Dieu l'a imaginée pour nous peut représenter quelque chose qu'il nous était très difficile d'imaginer. Si cela est le cas, prenez le temps de méditer sur la promesse de Dieu, sur le fait que cette vie éternelle qu'il nous accorde est si belle et si importante que nos propres fils, que son propre fils, pardon, a dû mourir pour que nous l'obtenions. Pourquoi aurait-il payé un prix si élevé si la vie éternelle n'en valait pas vraiment la peine? Je crois que pour vraiment apprécier la grandeur du sacrifice de Christ, il faut également apprendre à apprécier et à croire ce que Dieu dit quant à la valeur de la vie éternelle, car elle n'aura rien à voir avec notre expérience actuelle de la vie maintenant. Que signifie pour moi la mort de Jésus-Christ? Tout d'abord, elle signifie qu'il meurt pour que je vive. Il meurt pour que je peux vivre. Plus de 40 millions d'années. La deuxième chose qui est importante pour moi, c'est qu'avec sa mort, je suis réconcilié avec Dieu le Père. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Romains, chapitre 5 et verset 5. Romains, le livre de Romains, chapitre 5 et verset 5. Ah, on peut commencer avec verset 6, pardon. Romains 5 et verset 6. Il dit « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourant pour un injuste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous allons parler de la réconciliation dans un instant, mais lorsque Paul développe ses arguments ici, il commence par démontrer que Jésus était prêt à mourir pour des personnes qui ne méritaient pas de vivre. Combien de parents ici donneraient leur vie pour sauver leurs enfants? Mais combien de personnes ici donneraient leur vie pour sauver celle de leur pire ennemi? Nous voyons ici une norme d'amour qu'il nous est difficile à comprendre. Nous y reviendrons de ça plus tard, mais dans ce contexte, Paul écrit ensuite ceci au verset 9 et 10. Et plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, et plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous sommes réconciliés avec Dieu le Père, l'ancien des jours, comme mentionné dans Daniel 7, qui avec Jésus-Christ a créé l'univers. Comment pouvons-nous imaginer ce que sera de nous tenir devant Jésus, ressuscité, le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Que sera cette expérience incroyable de régner avec lui pendant 1000 ans à son retour? Pouvons-nous imaginer être inspirés par lui en personne et d'apprendre de lui directement Et imaginez maintenant que les 1000 ans soient terminés et que la nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse 21 descende sur la terre et que nous lisions enfin que Dieu le Père habite avec l'humanité. Imaginez que vous commenciez à explorer l'immensité de l'univers avec Dieu le Père et Jésus-Christ, votre frère aîné, notre frère aîné. Cet univers qui ont créé, qui partage maintenant avec nous la planète, les mondes situés à des milliards d'années-lumière. Imaginez que vous exploriez le miracle de la vie au niveau de la chimie, la biologie, la physique. Ça, c'est notre espérance, réconciliée avec Dieu. Rapportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, ce qu'il a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'est pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand je lis ce verset, je constate que même s'il veut nous expliquer ce que sera la vie avec lui, il ne peut pas le faire parce que notre esprit ne peut pas le comprendre. Si l'apôtre Jean nous regardait parler sur nos téléphones portables maintenant, taper sur nos ordinateurs et prendre l'avion, il sera confus. La technologie qui existe aujourd'hui sera incompréhensible pour quelqu'un de premier siècle. De même, la technologie et la science dont Dieu dispose dépassent notre capacité de compréhension. Nous n'avons même pas le vocabulaire pour les décrire. Ça, c'est le sens de ce verset. C'est difficile pour nos esprits de comprendre l'éternité réconciliée avec Dieu. Être un avec Dieu comme Jésus-Christ est un avec Dieu. Rapportez-vous, s'il vous plaît, à 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5 et verset 15 maintenant. 2 Corinthiens 5 et verset 15. Il dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour ceux. Alors que Paul commence à discuter de la réconciliation à Dieu le Père avec l'Église de Corinthe, il précise d'abord que nous avons l'obligation de vivre différemment à cause du sacrifice de Christ pour nous. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes et nos propres intérêts, mais nous vivons pour servir les intérêts du nouveau gouvernement auquel nous appartenions. Le Christ, dans sa bonté, nous permet de poursuivre nos intérêts sur la base des talents qu'il nous a donnés, bien sûr, mais il s'attend à ce que nos talents soient finalement utilisés pour servir nos frères et sœurs, tant dans l'Église que dans la communauté dans laquelle nous vivons. Continuez verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. On n'impute point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je suis maintenant quelque chose de différent et je dois me comporter différemment. Et une partie de cette différence est que je suis réconcilié avec Dieu et je dois alors faire partir d'un ministère de réconciliation. Je suis maintenant un ambassadeur et vous êtes un ambassadeur. Nous pouvons demander à Dieu la réconciliation promise. Et nous devons utiliser ces principes. Des principes de la réconciliation avec Dieu pour nous réconcilier les uns avec les autres. Porter en nous de la haine ou de la colère en cause de ce qu'ils nous ont fait ou dit, c'est un poids énorme à porter. Cela pèse sur nos âmes et raccourcit nos vies. Garder à distance les gens avec qui ont des difficultés n'est pas la solution divine aux problèmes relationnels entre membres du cœur du Christ et en qui réside le Saint-Esprit. C'est tellement mieux de laisser tomber notre orgueil et de comprendre que ce que les autres nous ont fait n'est pas différent de ce que nous avons fait à Dieu et que nos actions exigent la mort de son Fils, tout comme celle de la personne avec qui nous n'attendons pas. Quand je vis ma vie de cette façon, mon esprit est plus léger, plus libre. Je vois les choses plus clairement. J'aimerais que beaucoup de choses soient différentes dans ma vie. Nous ne le souhaitons tous, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne de ce monde. Ce n'est pas le royaume de Dieu ici, maintenant. Si nous recherchons la justice dans ce monde, nous allons être déçus. Nous ne pouvons pas réparer le monde. Sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas réparer notre famille. Nous ne pouvons pas, franchement, pas nous réparer nous-mêmes. Mais avec la mort et la réconciliation du Christ, nous pouvons apprendre la réconciliation et apprendre à vivre en paix. Regardons, reportez-vous s'il vous plaît à Matthieu 11, parce que Christ a partagé une espérance, une vérité, une chose magnifique ici. Matthieu 11, verset 27, il dit: toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne plus connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui le Fils veut le révéler. Donc, Christ est venu pour révéler le Père. On peut être réconcilié. On peut comprendre le Père. Ça, c'est la chose qu'il dit, mais après, remarquez, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dès que nous comprenons qui est le Père et comment Jésus-Christ est le Père, en Père comme un seul être, nous commençons à comprendre comment vivre nous-mêmes en paix. Nous n'avons pas besoin d'être fatigués, accablés. Nous pouvons laisser tomber nos soucis et être en paix. Je désire vraiment cela. Et comme ma vie est chargée et à jamais grâce à cela, ce que la mort de Jésus-Christ signifie pour moi, c'est que je peux être réconcilié avec le Père. Je peux obtenir la paix maintenant et bien sûr une vie magnifique dans l'avenir. La dernière chose que je veux partager aujourd'hui sur ce que la mort de Jésus signifie pour moi, c'est que grâce à elle, je comprends l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Il y a bien sûr le très célèbre verset biblique de Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cela décrit vraiment l'amour de Dieu pour moi. Mais il y a un autre verset qui décrit cet amour basé sur la voie de don envers les autres, basé sur ce sacrifice. Il se trouve dans 1 Jean 3, verset 16. Donc, s'il vous plaît, au lieu de Jean 3, 16, rapportez, s'il vous plaît, à 1 Jean 3, 16. C'est une façon de comprendre, de mémoriser ce verset. 1 Jean 3, verset 16. Il dit ici, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comme l'amour de Dieu demeurait-il en lui ? Petits enfants, verset 18, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour inconditionnel est compris presque universellement comme étant le bien ultime. Demandez à un hindou, un musulman, un chrétien ou un athée ce qu'est l'amour inconditionnel et vous entendrez probablement quelque chose de similaire. Il représente l'apogée de ce que les humains désirent pour eux-mêmes, mais qu'ils ne peuvent expérimenter que s'ils le partageaient avec d'autres. Il est difficile à définir et à décrire, mais nous le connaissons quand nous le voyons en action. Une façon de décrire l'amour inconditionnel est de donner tout ce que l'on a pour quelqu'un, même sa propre vie. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a donné sa vie pour moi et a donc donné l'exemple que je dois donner ma vie pour les autres. Non pas en mourant sur la croix comme lui, comme le dit l'apôtre Jean, mais dans notre manière à vivre. Le verset 17 indique clairement que nous ne pouvons pas ignorer les besoins de nos frères, ses sœurs. La générosité et l'attention sont la marque de fabrique des disciples de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas contenter de dire que nous aimons quelqu'un, nous devons le montrer par nos actes. Cela a changé ma façon de voir la vie. Je n'ai pas grandi avec beaucoup d'argent et j'ai vécu dans l'instabilité alors que je trouve cela parfois difficile car je veux m'assurer que j'ai assez. Et peut-être c'est le cas avec vous. Mais lorsque je vois les besoins et les souffrances des autres, j'ai honte de mes petits soucis et de mon égoïsme. Toutefois, ce genre d'amour n'est pas uniquement concernant les besoins physiques de nos frères et sœurs, mais je dirais un niveau encore plus important, leur besoin d'être accepté, d'être écouté, d'être compris. nous démontrons de l'amour en temps ouvert et humble avec les autres et ne les jugez pas pour une chose ou une autre. Nous montrons cet amour en acceptant avec douceur d'être parfois rebassé ou même humilié par un autre être humain, sachant fort bien que Dieu nous a pardonné pour les mêmes fautes. Pouvons-nous supporter d'être humiliés ou rester calme en pensant aux besoins de la personne en face de nous, davantage qu'à votre besoin de justice immédiate? Nous démontrons l'amour en estimant les autres plus que nous. Lorsque nous cherchons la gloire de Dieu, la gloire d'autrui avant la nôtre, comme le décrit Philippiens 4. Il est important de lire tout ce chapitre avant la Pâque pour nous examiner nous-mêmes dans ce domaine. Philippiens 4. L'amour, on fait de la page dans 1 Jean 4. Donc, remarquez, vous pouvez regarder jusqu'à 1 Jean 4, maintenant, verset 17, jusqu'à une page après. 1 Jean 4, verset 17. Il dit, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous pouvons comprendre ce que signifie l'amour en contemplant l'amour que Jésus a eu pour nous, pour moi. De quelle autre manière pouvons-nous comprendre l'amour? C'est un sujet révolutionnaire. Les Juifs du premier siècle cherchaient un Messie pour venir les délivrer, les Romains, et réétablir un royaume d'Israël indépendant. Nous pourrions penser la même chose, nous pourrions penser à Jésus revenant pour établir son royaume et mettre fin aux guerres entre les nations. Bien sûr, ça c'est le plan, mais si nous nous arrêtons et considérons que si nous n'apprenons pas ce qu'il a à nous dire lors de sa première venue, nous ne pourrions jamais participer à sa seconde venue. Comment pouvons-nous régner avec lui dans un royaume futur si nous sommes remplis d'orgueil, d'envie et de crainte? Nous devons apprendre ces leçons maintenant si nous voulons participer à l'avenir. J'aimerais pouvoir vivre ça mieux. J'aimerais ne pas être aussi sensible quand il s'agit de ce que m'arrive à moi ou ne pas être dérangé par certaines choses. Mais si je sais que je peux me tourner vers mon frère aîné Jésus-Christ pour lui demander de m'aider, de suivre son exemple, il est mort pour moi afin de montrer son amour inconditionnel envers moi. Il faut donc que je fasse preuve d'amour inconditionnel pour mes frères et sœurs spirituels aussi. Aujourd'hui, nous avons discuté de ce que la mort de Christ signifie pour moi. J'espère que cette discussion vous a amené à réfléchir à ce sujet et à vos propres raisons. J'espère que vous pourriez faire votre propre étude sur ce sujet. Dans mon prochain sermon, je veux parler de ce que la résurrection de Christ signifie pour moi. Il y a une signification incroyable dans le sacrifice de la Pâque de Jésus-Christ. Et de même, il y a une signification incroyable dans la glorieuse résurrection de Jésus-Christ également. Donc, c'est impossible de parler de la signification de la mort de Christ et aussi de la signification de la résurrection dans le même serment. Donc, ce serment, c'était juste le mort. Et le prochain, c'est la résurrection. Je vous dis donc à la prochaine fois dans ce deuxième serment. Donc, je vous souhaite un bon sabbat et j'ai hâte d'avoir une discussion après l'assemblée. Merci.